Et si l'être humain du jardin d'Éden n'avait pas, en fait, jamais été conçu pour être immortel ?
Ah, c'est une question qui bouscule pas mal de certitudes.
Ouais, et s'il n'avait pas d'âme, du moins pas au sens philosophique où on l'entend généralement aujourd'hui. Oubliez la pomme, oubliez le serpent qui parle et les petits personnages cachés derrière un buisson pour un instant.
C'est vrai qu'on a tous cette image en tête.
Exactement. En général, quand on évoque ce récit, l'image qui vient à l'esprit, elle est assez binaire, presque enfantine en fait. On croirait lire une petite fable avec une morale super évidente.
Ouais, la fameuse histoire de l'école du dimanche.
C'est ça. Mais dès qu'on s'immerge véritablement dans les sources, cette illustration un peu simpliste, elle vole complètement en éclats.
Et c'est là tout le grand paradoxe de ce texte en fait. Il fait partie des récits les plus connus de l'histoire de l'humanité, et pourtant il est lu avec un tel filtre culturel, je veux dire des siècles de filtres, que son essence originelle est souvent complètement masquée.
Absolument.
L'analyse que propose le docteur Kenneth Matthews sur les chapitres 2 et 3 de la Genèse, eh bien, elle nous force justement à enlever tous ces filtres. Son travail démontre de façon brillante qu'on a affaire à un paysage littéraire et théologique d'une profondeur inouïe.
Et c'est exactement l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer les notes, les recherches du docteur Matthews sur ce fameux passage. Donc pour situer, ça va de Genèse chapitre 2, verset 4, jusqu'à la toute fin du chapitre 3.
Tout à fait, c'est le cœur du sujet.
Notre mission pour ces plongées en profondeur, c'est vraiment de comprendre pourquoi le texte propose soudainement une approche si différente de la création. On va explorer les subtilités vertigineuses de la langue hébraïque, et croyez-moi, il y en a, et examiner ce que ce document millénaire tente de nous dire sur la nature humaine, sur la gestion de nos désirs et sur notre rapport à la source de toute chose.
C'est un vaste programme, mais pour bien saisir la mécanique de ce récit, il faut absolument, d'abord, comprendre la transition, ou plutôt le changement radical de perspective que l'auteur ancien opère entre le premier chapitre de la Genèse et le deuxième.
Parce que souvent, les gens pensent que c'est juste une répétition, non?
Voilà. Ou pire, que ce sont deux récits concurrents qui se contredisent. On entend souvent ça. Mais l'analyse de Matthews montre que ce sont plutôt deux angles d'approche radicalement différents. Le premier chapitre, c'est, disons, l'ordre cosmique parfait. Le texte y met l'accent sur une symétrie mathématique.
Avec les fameux jours de création.
Exactement. On y trouve un rythme très majestueux, très répétitif, structuré autour de cette cadence de 6 jours de création suivie d'un jour de repos.
Ouais, il y a un côté très grandiose en fait. Très organisé, tout est à sa place, des étoiles jusqu'aux océans.
C'est le mot. Et le Dieu présenté dans ce premier chapitre, il est décrit avec le mot hébreu « Elohim ». C'est un Dieu transcendant, majestueux, qui est très distant. Il crée par la seule puissance de sa parole, tu vois?
Juste en parlant, ouais.
Et le texte utilise un verbe hébreu très technique, bara, qui est exclusivement réservé à l'action divine de créer à partir de rien. C'est vraiment le souverain absolu de l'univers. Mais dès qu'on passe au chapitre 2, la tonalité subit une métamorphose complète.
Ça change du tout au tout.
Complètement. Le rythme ralentit de façon drastique. Le cadre y se resserre uniquement sur ce 6e jour, le jour de la création humaine. En fait, le texte délaisse le poème cosmique pour adopter la forme d'une intrigue narrative. C'est beaucoup plus terrestre, avec de la boue, des arbres, des fleuves.
C'est très frappant cette différence de ton. En lisant les sources pour préparer cette analyse, j'avais une image qui m'est venue en tête. C'est un peu comme si, imagine un film à grand spectacle. Le chapitre 1, ce serait un immense plan tourné avec un drone, en grand angle.
Ah, j'aime beaucoup cette idée.
Tu vois, on survole les galaxies, les montagnes, les océans. La réalisation est majestueuse, presque intouchable. Et puis, soudainement, au chapitre 2, le réalisateur pose le drone. Il prend une caméra à l'épaule et il s'approche au plus près des personnages.
On est dans l'action.
Voilà, on voit la poussière sur le sol, on ressent la respiration, le cadre tremble presque tellement il est intime. On est vraiment collé à l'humain.
Cette analogie visuelle, elle capture très bien l'intention littéraire, je trouve. Et ce qui est fascinant dans les notes de Matthews, c'est que ce changement de focale s'accompagne d'un changement de vocabulaire qui est vraiment crucial.
Ah oui, le changement de nom ?
C'est ça. Dans ce plan, la caméra à l'épaule, comme tu dis, l'auteur introduit un nouveau nom pour le divin. Il utilise Yahvé, Elohim, ce qu'on traduit souvent dans nos Bibles par l'éternel Dieu ou le Seigneur Dieu. Et c'est pas du tout un hasard.
Parce que Yahvé a une signification très spécifique, c'est ça, hein ?
Exactement. Le nom Yahvé désigne le Dieu de l'Alliance. C'est un Dieu relationnel infiniment proche. Alors bien sûr, la pleine signification de ce nom, elle ne sera révélée que bien plus tard à Moïse dans le récit biblique. Mais l'auteur de la Genèse l'utilise ici par anticipation pour forger un concept théologique majeur.
Donc, si je comprends bien, le but c'est de dire que le Dieu cosmique et lointain du chapitre 1, c'est en fait le même que ce Dieu proche et personnel du chapitre 2.
Tout à fait. Bien que le mot personnel soit presque un euphérisme ici, dans ce chapitre 2, l'action divine devient intensément anthropomorphique.
C'est-à-dire qu'il agit comme un humain.
Voilà, Dieu n'est plus seulement une voix qui ordonne l'univers depuis les cieux. Le texte le décrit vraiment comme un artisan, comme un potier qui met littéralement les mains dans la terre pour façonner l'être humain.
Il se salit les mains, quoi.
Exactement. Et c'est là que l'hébreu ancien déploie toute sa poésie. L'être humain est appelé Adam, et la terre arabe, donc la boue du sol à partir de laquelle il est pétri, s'appelle Adama.
Donc Adam vient de Adama. C'est un jeu de mots ?
C'est ça. Mais c'est bien plus qu'un simple jeu de mots poétique. C'est une véritable déclaration ontologique, selon Matthieuse. L'humain, c'est le terreux. Il est indissociable du sol sur lequel il marche. L'analyse souligne que cette origine purement matérielle met en évidence une fragilité constitutive, une vulnérabilité vraiment extrême de notre condition.
Bon, attends, il faut qu'on décortique ça un instant. Car c'est là que les sources mastueuses viennent percuter de plein fouet nos idées reçues.
Vas-y, je t'écoute.
Une fois que ce corps de boue est façonné, le texte dit que Dieu insuffle le souffle de vie dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante, selon l'expression qu'on entend très souvent dans les traductions classiques. Et moi, j'ai toujours cru, ou en tout cas on m'a toujours enseigné, que l'âme était cette entité immatérielle et immortelle qui est enfermée dans notre corps physique et qui s'en libère au moment de la mort.
C'est le grand classique.
Oui, c'est l'idée classique qu'on se fait de l'âme, hein, non ? On a un corps et on a une âme dedans.
C'est l'idée classique en Occident, oui. Mais c'est un héritage direct de la philosophie grecque, et plus particulièrement de Platon. Le docteur Matthews insiste lourdement sur le fait que projeter cette vision dualiste sur le texte hébreu ancien, c'est un contresens total.
Ah ouais, un contresens total.
Total. Le mot utilisé dans le texte original, c'est « nefesh ». Et dans la pensée hébraïque ancienne, « nefesh » ne désigne absolument pas un fantôme immortel coincé dans une machine de chair. Pas du tout.
Alors c'est quoi un « nefesh » ?
Nefesh signifie un être vivant, mais dans sa globalité. La chair, les os, le souffle, l'esprit, la pensée, tout cela forme une seule et même entité complètement indivisible.
Donc, pour résumer l'idée du docteur Matthews, l'homme ne possède pas une âme, l'homme est une âme. Il est un nefesh tout entier.
C'est la distinction fondamentale qu'il faut retenir. Et la conséquence directe de cette vision unifiée, c'est que l'être humain tel qu'il est décrit ici a été créé fondamentalement mortel.
Mortel dès le départ.
Pas à cause de la pomme, hein.
Dès le départ.
S'il n'est que de la terre animée par le souffle divin, il n'a aucune immortalité intrinsèque en lui-même. Sa vie dépend d'un apport extérieur continu. Il doit être maintenu en vie. Et on va y revenir d'ailleurs avec la fameuse question des arbres du jardin.
Ouais, ça change complètement la donne. Donc nous avons ce nefesh, cet humain entier et terrestre, qui est placé dans un environnement spécifique. Le texte dit qu'au départ, avant même que l'humain ne soit façonné, la terre était stérile. Il n'y avait pas de pluie, mais surtout il n'y avait pas de cultivateur.
Le jardin avait besoin d'un jardinier.
C'est ça, l'humain est donc placé là pour travailler et pour garder le jardin. Mais très vite, la dynamique narrative se grippe un peu.
Oui, l'auteur introduit là une rupture de ton assez spectaculaire. Souvenons-nous du premier chapitre, après chaque étape de la création, le texte martelait un refrain joyeux. Dieu vit que cela était bon.
Dieu vit que cela était bon, tout le temps.
Voilà, et à la fin c'était même très bon. La création cosmique c'était un sans faute absolu. Et là, soudainement, au cœur même de ce paradis terrestre du chapitre 2, Dieu pose un diagnostic étonnant. Il dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
C'est la première déclaration de manque dans toute la Bible, en fait.
Exactement. C'est la première dissonance dans l'univers.
L'univers est parfait. La création est parfaite. Mais un humain isolé au milieu de cette perfection, c'est une anomalie. Et je trouve que ça en dit super long sur la vision de l'auteur concernant notre besoin viscéral de connexion.
Tout à fait. L'humain n'est pas fait pour l'isolement.
Et pour résoudre cette anomalie, le texte décrit une intervention assez mystérieuse, un peu comme une chirurgie. Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme pour lui retirer un côté, qu'on traduit souvent par côte, et construire la femme.
Et le détail de ce sommeil est vraiment fascinant dans l'analyse de Matthews. Il suggère que ce sommeil profond, ça empêche l'homme d'être un spectateur ou un superviseur de la création de la femme.
Il ne l'a pas vu être fabriqué.
Exactement. Son origine garde une part de mystère divin insondable pour lui. Contrairement aux animaux qu'il a pu observer, qu'il a pu nommer et classer un peu plus tôt, elle lui apparaît soudainement comme une œuvre achevée. Le texte la qualifie d'aide semblable.
Et ça, c'est une expression qui pose souvent problème aujourd'hui.
Oui, malheureusement. En français moderne, le mot aide peut sonner comme une position d'assistante, de subalterne, quelqu'un de second rang. Or, dans l'hébreu biblique, ce même mot racine ézer est très souvent utilisé pour décrire Dieu lui-même, venant au secours de l'humanité.
Ah oui, donc si Dieu est appelé une aide, ça ne peut pas être un terme réducteur.
Absolument pas. Il n'y a aucune connotation d'infériorité. L'expression désigne plutôt une correspondante parfaite, un vis-à-vis qui lui est totalement égal et qui le complète pour le sauver de son isolement.
D'ailleurs, la réaction de l'homme à son réveil confirme complètement cette égalité. C'est une explosion de joie, c'est presque un cri de soulagement quand il la voit. Et là, il utilise un autre jeu de mots brillant. Il s'exclame devant elle en utilisant le terme « ish » pour désigner l'homme et « isha » pour désigner la femme.
« Ish » et « isha », oui, la racine est partagée.
Ça me fait vraiment penser à la musique, tu vois. C'est comme si tu prends une fréquence sonore toute seule, bon, c'est plat. Et s'il n'y avait eu qu'une réplique exacte de l'homme, genre un autre homme identique, ce serait la même note jouée deux fois.
Ouais, l'unison.
Mais « ish » et « isha », ce sont deux notes distinctes qui, quand elles sont séparées, appellent une résolution. Elles sont incomplètes. Et quand elles sont ensemble, boum, elles créent un accord parfait, la toute première harmonie sociale.
C'est une très belle image. L'idée d'un accord parfait illustre parfaitement le passage du silence, de l'isolement, à la première vraie mélodie relationnelle. Et le docteur Matthews fait d'ailleurs remarquer que cette unité de substance, qui est si bien soulignée par la proximité phonétique de « ish » et « isha », elle débouche très naturellement sur l'union physique.
Le texte dit qu'ils deviennent une seule chair.
Voilà. Et ce point est crucial pour comprendre la vision du monde de l'auteur attique. La procréation, le corps physique, la sexualité, tout cela est fondamentalement affirmé comme étant bon et voulu par le Créateur.
Donc, on est très loin de l'idée que le corps ou le sexe serait sale ou pécheur.
Très loin. Ce texte s'inscrit en opposition totale avec les philosophies ascétiques ultérieures qui verront le corps et ses désirs comme des éléments impurs ou mauvais en soi. Ici, la physicalité est célébrée.
Justement, parlons-en de ces désirs. Car cette petite communauté humaine nouvellement formée, elle ne flotte pas dans un vide abstrait. Elle est placée dans un cadre physique très précis. Et l'auteur insiste lourdement sur la géographie, tu l'as évoqué plus tôt.
Oui, il y a une sorte d'effet d'entonnoir dans la description.
C'est ça. Il part de la Terre entière, il zoome sur la région d'Éden, il mentionne quatre fleuves spécifiques, dont le Tigre et l'Euphrate, qui sont bien réels et qui nous situent géographiquement en Mésopotamie, ainsi que le Pichon et le Guichon. Et finalement, il place le fameux jardin à l'est de cette région. Mais pourquoi s'encombrer tous ces détails topographiques ?
Selon Matthews, l'intention littéraire de l'auteur est très claire ici. Il s'agit d'ancrer le récit dans une réalité tangible.
Pour dire que c'est pas juste un conte de fées.
Exactement. L'auteur antique ne veut surtout pas que son auditoire perçoive ce jardin comme un royaume féerique, tu vois, un truc situé quelque part au-delà de l'arc-en-ciel ou dans les nuages. En utilisant des repères fluviaux qui étaient très connus dans le Proche-Orient ancien, il inscrit délibérément cet environnement dans la trame du monde réel.
Et au centre géométrique de cet espace si bien défini, il place deux arbres emblématiques.
Oui, c'est le cœur du jardin. D'un côté, on a l'arbre de vie. Celui-là incarne le principe vital continu et la présence même du Créateur. C'est de cet arbre dont ces humains, qui, on le rappelle, sont de la boue mortelle, ont viscéralement besoin pour contrer leur nature éphémère.
Ils devaient en manger pour continuer à vivre, c'est fou.
C'est ça l'idée. Et de l'autre côté, on a le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que le docteur Matthews aborde cette question des arbres sous l'angle du désir et son approche est super contre-intuitive.
Oui, il prend le contre-pied de pas mal d'idées reçues.
Il explique que le désir de se nourrir des fruits du jardin, le désir de travailler la terre, l'attirance sexuelle entre l'homme et la femme, et même, accroche-toi bien, hein, l'appétence pour la sagesse que représente cet arbre, bah, tous ces désirs sont bons, ce sont des cadeaux divins. Sans exception.
Il n'y a pas de mauvais désir dans le jardin originel.
Mais alors une question me brûle les lèvres en lisant ça. Si l'envie de sagesse, l'envie de grandir intellectuellement, est intrinsèquement saine, pourquoi le créateur la place-t-il derrière un interdit aussi absolu? Est-ce que le but, c'était vraiment de les maintenir dans l'ignorance comme des enfants naïfs?
C'est souvent l'argument qu'on entend, la question de l'ignorance. Mais le texte hébreu nous force à voir cela autrement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans ce contexte, ne représente pas du tout le savoir technique, scientifique ou même la maturité intellectuelle.
Ah, ce n'est pas le QI qui est en jeu.
Non, pas du tout. Dans l'analyse de Maffès, cet arbre représente l'autonomie morale absolue.
L'autonomie morale absolue. C'est-à-dire ?
C'est l'idée de s'arroger le droit de définir soi-même de son propre chef ce qui est bien et ce qui est mal, plutôt que de faire confiance aux définitions posées par le Créateur. C'est vouloir prendre la place de l'arbitre ultime, et c'est précisément là que la gestion du désir entre en jeu de façon cruciale.
Donc le désir en soi n'est pas mauvais, mais s'il n'est pas canalisé, il devient le problème.
Exactement. Tous les dons du jardin sont excellents, mais ils exigent tous une structure.
Un cadre.
Voilà. Le désir de manger, par exemple, sans aucune limite, ça devient la gloutonnerie. C'est destructeur pour le corps. Le désir d'autonomie et de sagesse, s'il se fait sans un cadre de soumission et de confiance envers la source même de la vie, il se transforme en orgueil destructeur.
D'accord, je vois mieux.
Donc, l'interdiction de manger de ce fruit spécifique n'est pas une brimade mesquine d'un dieu jaloux, mais plutôt un exercice pratique. C'est l'apprentissage de la maîtrise de soi. C'est un test de confiance fondamentale qui pose la question « Vais-je accepter que mes désirs aient une limite fixée par une sagesse supérieure ?» ou « Vais-je laisser mes envies me contrôler totalement pour devenir mon propre dieu ?»
C'est vertigineux quand on y pense. On passe d'une petite histoire de fruits défendus pour les enfants à une analyse psychologique hyper profonde sur la façon dont nos passions peuvent nous asservir si on ne les maîtrise pas.
C'est toute la force de ce texte.
Et tout cela nous amène logiquement au point de bascule. Le docteur Matthews insiste beaucoup sur le fait que l'auteur ancien ne présente pas ce décor et cette chute comme une simple parabole isolée de l'histoire, mais bien comme un événement historique fondateur.
Oui, il passe pas mal de temps là-dessus. L'argumentaire de Matthews pour défendre l'historicité d'Adam et Ève, du moins dans l'esprit de l'auteur biblique de l'époque, repose sur la structure interne même du livre de la Genèse.
Il parle des généalogies, c'est ça, hein ?
Oui, il s'appuie notamment sur un terme hébreu clé, les toledoth. C'est un mot qu'on traduit souvent dans nos Bibles par « voici les générations d'eux » ou « voici l'histoire d'eux ».
Ah oui, ces longues listes de noms qui engendrent d'autres noms et qu'on a souvent tendance à sauter quand on lit.
Ces fameuses listes, oui. Mais pour l'auteur de la Genèse, ces formules ne sont pas du tout de simples ornements de style ou des trucs ennuyeux. C'est littéralement le squelette littéraire du livre. Ces marqueurs textuels relient directement l'histoire des origines célestes et terrestres à l'histoire d'Adam. Puis, il relie Adam à Noé, et de Noé, il tire une ligne droite jusqu'à l'histoire patriarchale d'Abraham, qui, elle, est très détaillée et géopolitiquement située.
Donc, pour l'auteur de l'époque, il n'y avait absolument pas de ligne de démarcation claire entre, disons, le mythe abstrait des premiers chapitres et l'histoire concrète d'Abraham.
Pour le rédacteur antique, tel que l'analyse Matthews le démontre, l'ensemble de ces chapitres forme un continuum historique ininterrompu. Adam et Ève étaient perçus comme des figures historiques réelles, au même titre que les grands patriarches d'Israël. Et c'est ça qui donne un fondement si concret, si lourd de conséquences à la grande tragédie qui se déploie au chapitre 3.
La fameuse chute, mais alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Je veux dire, même si, pour ceux qui écoutent, on aborde ce texte sous un angle purement littéraire, ou psychologique, ou allégorique plutôt qu'historique pur, est-ce que cette tragédie, cette fracture décrite au chapitre 3, ça reste pas la description la plus fulgurante et intemporelle de la condition humaine?
Ah si, complètement.
L'acte de transgression, la désobéissance à cet interdit structurant, ça enclenche une vraie réaction en chaîne désastreuse.
Le diagnostic qui est posé par ces pages antiques est d'une lucidité implacable sur la nature des conflits humains. Souvenons-nous du chapitre 2. L'auteur y peignait une triple harmonie magnifique.
Ouais, tout allait bien.
Il y avait l'harmonie conjugale entre Ish et Isha, l'harmonie écologique entre l'humanité et la nature qu'il devait cultiver, et enfin l'harmonie spirituelle, la proximité avec le Créateur. Le chapitre 3, c'est littéralement la chronique d'un effondrement total de cette trinité relationnelle.
On le voit tout de suite dans le texte, avec l'apparition immédiate de la honte face à la nudité. Il se cache, Et puis, il y a ce jeu pathétique du transfert de culpabilité. Tu sais, quand Dieu demande des comptes, l'homme blâme la femme, et par ricochet, il blâme même Dieu de lui avoir donné cette femme. C'est genre, c'est la femme que tu as mise auprès de moi.
Oui, le tissu social se déchire instantanément. On remplace la complémentarité parfaite du début par des rapports de domination, de méfiance et de conflit ouvert. Ensuite, la deuxième fracture se matérialise, la fracture écologique. Le sol, cet Adama d'où l'homme a été tiré, est maudit. Le travail, qui au chapitre 2 était une vocation joyeuse et épanouissante, devient soudainement une lutte épuisante contre les épines et les chardons.
Et bien sûr, la conséquence finale, c'est l'exil hors du Jourdain.
C'est la fracture ultime, le gouffre relationnel qui s'ouvre entre la création et son créateur. Selon le cadre théologique que pose le docteur Matthews ici, cette faille cosmique initiale, c'est très précisément ce que la lecture chrétienne ultérieure identifiera comme nécessitant l'intervention réparatrice du Christ pour restaurer cette triple harmonie perdue.
En fin de compte, notre analyse des travaux du docteur Matthews aujourd'hui démontre à quel point ce récit du Jardin d'Éden dépasse mais infiniment l'image d'Épinal qu'on s'en fait habituellement.
Oh oui, on est à des années-lumière du petit conte moralisateur.
Ces chapitres 2 et 3 ne sont pas une relecture maladroite du premier chapitre, mais un chef-d'œuvre narratif en soi. Ils dissèquent, notamment à travers la précision chirurgicale des mots hébreux, notre vulnérabilité fondamentale, avec cet Adama, cet être fait de poussière. Ils célèbrent le besoin viscéral de l'autre à travers la résonance entre Ish et Isha, et ils exposent la gestion si périlleuse de nos désirs face aux limites qui fondent notre liberté.
C'est un résumé parfait de la profondeur de ce texte.
Ce qui nous amène à une réflexion finale pour clore ce temps passé ensemble. On a souvent l'habitude, dans notre imaginaire collectif, de conceptualiser le paradis originel comme un lieu un peu magique où l'être humain était invincible, immortel d'emblée, presque un dieu lui-même.
C'est souvent l'image populaire, oui.
Mais si, comme les sources qu'on vient de voir nous l'indiquent, cet être humain a été créé, fait de boue, intrinsèquement mortel au point d'avoir besoin du fruit de l'arbre de vie en permanence pour simplement subsister, et s'il était si vulnérable qu'il avait viscéralement besoin d'un partenaire pour ne pas sombrer dans l'isolement?
Où veux-tu en venir?
Eh bien, se pourrait-il que la véritable définition du paradis originel ne soit pas du tout l'indépendance absolue et l'invincibilité? Peut-être que le paradis, en fin de compte, c'était d'abord l'acceptation paisible de notre propre vulnérabilité, soutenu par une dépendance totale et confiante envers la bonne source.
C'est une perspective radicalement différente.
Ça change tout, surtout pour quiconque aujourd'hui cherche à échapper à la pression moderne et épuisante de devoir toujours se montrer fort, autonome et invincible. C'est une pensée qu'on vous laisse méditer.